Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour le 32e épisode de la saison 2 de Vue du Banc. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode assez riche puisqu'on va parler à la fois de l'équipe de France et des tirages au sort des compétitions européennes qui viennent de se faire là ce midi. On enregistre, il est 15h donc on est encore un peu sous le choc de ces tirages et on va en parler avec seulement Florent Antonetti aujourd'hui. Est-ce que ça va Florent ?
Ça va, ouais, très bien, salut.
Puisque Christophe Kuchli, pour une fois, a du travail, donc il ne peut pas être disponible avec nous et on sera à deux en tête à tête, Florent, pendant une petite heure pour parler de tout ça. Ça te va ?
Ça va bien se passer.
Très bien.
Ferme les yeux, tout va.
Je ne veux pas savoir ce que tu veux dire par là. On va commencer donc par la liste de Didier Deschamps. On en avait parlé un tout petit peu avant l'annonce et puis elle est sortie. Et la casette n'est toujours pas là, ça a fait beaucoup de débats, Florent. Est-ce que c'est ça aussi que tu retiens de cette liste ou quelque chose t'a plus intéressé que cette non-sélection de l'attaquant français le plus en forme ?
Non, c'est vrai que à part cette surprise, parce que dans la situation actuelle de l'équipe de France où il n'y a pas beaucoup d'avant-centres qui sont en grande forme, ne pas avoir pris la casette, c'est très surprenant et on ne peut pas dire que ce soit un choix sportif. On se retrouve dans une situation où tu as quand même le sélectionneur de l'équipe de France qui, à l'heure actuelle, décide volontairement de se passer des deux meilleurs attaquants français, Karim Benzema et Alexandre Lacazette. Bon, c'est un choix, hein. Après, on a un an et demi de la Coupe du Monde, donc Lacazette a encore un an et demi pour revenir. Rappelle-toi que Payet... Oui. Qui n'était pas en odeur de Saint-Denis, il est revenu 6 mois avant, je crois, c'était en décembre.
Ouais, il a fait son trou sur une sélection et puis après il n'est plus sorti. Ouais.
Voilà, donc peut-être que c'est ce qui lui arrivera. En tout cas, c'est ce qu'on peut, enfin c'est ce que j'espère et c'est ce que je lui souhaite. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est assez difficile de comprendre sportivement pourquoi il n'est pas pris.
Moi, je lui souhaite parce qu'on en avait parlé dans le dernier épisode, mais quand ta vedette est clairement maintenant Antoine Griezmann et depuis l'Euro 2016, Deschamps a clairement donné les clés de la sélection. Pas forcément explicitement, mais dans le jeu Antoine Griezmann, avoir un joueur comme Lacazette qui me paraît, mais on l'avait déjà dit, mais le complément parfait de Lacazette, c'est-à-dire que dos au but, il va t'apporter ce que Griezmann, lui, fait face au jeu. Je sais pas, je trouve ça dommage de pas associer ces deux hommes-là, sachant que c'est deux joueurs qui sont habitués à jouer dans une attaque à deux, ouais. Surtout quand Lyon joue en 4-2-3-1, parce que Fekir et Lacazette, ils sont souvent sont proches l'un de l'autre, des joueurs qui sont capables de combiner. Ça me paraît très bizarre de privilégier finalement un problème de personne à la qualité des joueurs. Et est-ce qu'un rôle dans la sélectionneur, finalement, souvent, c'est pas de mettre ça derrière soi et de privilégier la qualité de l'équipe, du groupe ?
Peut-être, mais après, bon, y a une logique de groupe dans l'esprit de Deschamps qui se traîne depuis longtemps. Sa grande réussite lors de l'Euro, au-delà de ce qui s'est passé dans le jeu, on a assez parlé en affichant un peu notre déception, notre perplexité. Mais sa grande force a été de créer un groupe. Le mot est sorti, a été répété et remis à toutes les sauces depuis. La vraie question, c'est est-ce que tu es toujours dans une logique de groupe, sachant qu'aujourd'hui, il rappelle toujours, par exemple en attaque, hein, désolé pour la cible facile, mais il rappelle toujours un joueur comme Olivier Giroud, qui, s'il est performant sur ses rentrées à Arsenal, n'est plus un titulaire. Et ça, a priori, c'est quelque chose aussi qui compte énormément dans les choix de Deschamps, le fait que le joueur joue régulièrement.
Ah, c'est comme ça qu'il a justifié l'absence de Moussa Sissoko, par exemple.
Ouais, donc voilà, je pense qu'il reste dans la logique de groupe, mais pour surfer un petit peu sur la dynamique qui est créée depuis l'Euro. Mais est-ce que c'est intéressant d'être dans une logique de groupe à un an et demi d'une compétition ? Que tu fermes ton groupe, je sais pas, 6 mois avant, sur les deux derniers rassemblements, et que tu ne fasses que des changements à la périphérie, pourquoi pas ? Là, aujourd'hui, je pense que les performances sportives auraient dû primer. Après, bon... C'est le choix actuel. En même temps, il n'y a pas grand-chose à jouer sur les deux matchs en question. Donc, si on n'est pas super compétitif, c'est pas forcément très grave de ne pas avoir tous les joueurs qui sont en pleine bourre à l'heure actuelle.
Oui, mais disons que c'est le message que tu envoies aux joueurs. Alors, il a dit Deschamps justement qu'il n'y avait aucune interdiction et qu'il pouvait très bien être appelé dans le futur. Bon, après, si tu ne le sélectionnes pas quand il est dans cette forme-là, alors que les autres, justement, sont en difficulté. Bon, le signal est plutôt négatif. Ce qu'on peut espérer, c'est que quand il va rejoindre un grand club cet été, comme ça devrait être le cas, parce que Lyon a besoin d'argent et Lacazette a annoncé son envie de partir, bah Deschamps sera un peu mis dans la même situation qu'avec Umtiti, c'est-à-dire que ça devient impossible de ne pas sélectionner un joueur qui est titulaire dans un des grands clubs.
C'est ça, ouais. Umtiti, il a fallu qu'il y ait 3 ou 4 joueurs qui se blessent pour qu'il soit appelé
Oui.
alors qu'il était encore lyonnais.
Qu'un joueur qui n'était pas dans la liste au départ revienne et se blesse.
Ouais, c'est ça. En plus, je crois que c'est. Ça a été résumé, je crois qu'il était le 7e choix en défense centrale de Deschamps et il finit titulaire contre l'Allemagne et après il part au Barça et c'est vrai qu'aujourd'hui,
Hey,
même si.
titulaire et bon surtout, c'est ça qui
Ouais,
compte.
même si aujourd'hui il ne fait que son retour dans le groupe, puisqu'il était blessé, Umtiti à sa place, voilà, il sera dans les 23 pour la Coupe du Monde, sauf blessure évidemment, et ça sera pas discutable du tout. Donc je sais même pas pourquoi on parle de lui, mais voilà.
Par rapport à Lacazette
Oui.
qui deviendra inévitable une fois qu'il aura rejoint un grand club. Parce qu'on sait que Umtiti, quand il était à Lyon, Deschamps avait eu des déclins un peu. Ouais, il joue à Lyon, on attend
Ouais, c'est
qu'il
vrai.
aille un peu plus haut pour le sélectionner.
Mais
Parce qu'on a.
on va voir sur sa destination. Mais aujourd'hui, sur les dernières rumeurs, ça parlait de Manchester City, ça parlait du Borussia Dortmund et ça parlait de l'Atlético Madrid. Je pense que
Ouais.
s'il va dans un de ces trois-là, oui, il
Ce
sera
serait drôle
appelé.
qu'il aille à l'Atlético et qu'il prenne la place
De Griezmann, ouais.
De Griezmann ou de Gamero dans le 11 et qu'ensuite du coup il vient en sélection parce qu'il joue avec ces deux-là.
C'est vrai, mais je le verrais bien, juste pour la petite parenthèse, je le verrais bien à Dortmund si Dortmund doit vendre Aubameyang. Il serait parfait pour cette équipe, comme il serait parfait pour City. Les deux styles de jeu, Tuchel, Guardiola, sont assez proches, et un joueur comme Lacazette s'y intègre naturellement. Après, il faut que Tuchel reste aussi, ça n'a pas l'air d'être
Ouais,
très
bah
certain
après.
aussi.
À voir son parcours en Ligue des Champions, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi un point qu'on a remarqué dans cette équipe, dans cette liste, Florent, c'est que Didier Deschamps, comme souvent dans ses logiques de sélection, s'appuie sur les noyaux qui existent en club. Alors depuis que Gamero et Griezmann jouent ensemble à l'Atlético, bah, ils sont toujours sélectionnés. Même chose là pour l'instant du côté de Monaco. La plupart des Français en forme ont été sélectionnés. Le seul qui n'a pas été pris, c'est Bakayoko. Mais Thomas Lemar est là, comme la dernière fois. Benjamin Mendy fait son entrée en équipe de France. Et puis Mbappé, on en avait parlé finalement, devant le désert un peu offensif qui existe. Les non-sélections de joueurs qui sont peut-être au-dessus du lot en termes de talent comme Lacazette et Benzema, bah il a pris ce jeune joueur de 18 ans.
Oui, mais c'est, enfin, tout est assez logique dans ces sélections. Même Sidibé à droite, qui profite un petit peu du désert parce que lui
Ouais.
aussi, parce que on va dire, il était quand même bien moins performant que Mendy sur les dernières semaines.
Oui, et puis c'est pas Corcia qui joue le maintien à Lille qui va lui faire concurrence donc.
Voilà, donc voilà, il y a un petit désert dont il profite un peu, même si aujourd'hui c'est sans doute le latéral français le plus performant, offensivement en tout cas, puisque Sagna se défend toujours un peu derrière. Mais ouais, c'est assez logique pour Deschamps de faire appel à ces quatre joueurs-là. Moi, ce qui va m'intéresser j'anticipe un peu, mais ce qui va m'intéresser, c'est. Tu parlais du noyau Griezmann-Gamero devant. C'est ce que Deschamps va justement tenter d'aligner et d'associer Lemar et Mendy pour animer son côté gauche. Ça peut être quelque chose
Ouais.
d'intéressant et quelque chose même de très intéressant en vue de la prochaine Coupe du Monde, parce que ce sont deux joueurs qui, s'ils continuent sur leur dynamique actuelle, seront de vrais candidats à une place de titulaire, vu que tout est très ouvert sur les côtés.
Surtout si tu joues dans un système en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 où ça fonctionne très souvent par paire. Et là-dessus,
Exactement.
c'est pour ça que tu peux t'appuyer sur Camero Griezmann qui sont complémentaires, sur Mendy Lemar, où Lemar vient souvent à l'intérieur pour laisser le couloir à Mendy qui a un volume de jeu très très important. Le souci, c'est qu'on l'a pas finalement dans les autres secteurs de jeu pour le moment.
Exactement. Et ça va être une des choses à suivre sur l'année qui suit, l'année à venir. C'est est-ce qu'il y a d'autres paires dans d'autres clubs au gré des transferts, etc., qui vont se créer et qui vont permettre à Deschamps un petit peu d'avoir encore plus d'automatisme, même s'il y en a certains quand même qui se sont créés en équipe de France. Varane Koscielny, même si Varane n'est pas là cette fois parce qu'il est blessé, je pense qu'ils auront quand même assez joué ensemble pour. Sur les 2 années entre les deux compétitions pour se connaître, mais c'est vrai que voilà, si tu peux baser certains secteurs de jeu sur des automatismes et des paires, voire des triplettes, même si triplette c'est un petit peu voir loin, sauf si Mbappé continue sur sa lancée à Monaco. Voilà, si tu peux baser sur des mecs en club, c'est forcément beaucoup plus facile ensuite pour un sélectionneur de construire autour. Il suffit de prendre l'exemple de l'Espagne championne d'Europe, du monde, etc., avec son noyau barcelonais.
Alors, il y a deux petits nouveaux qui font leur entrée en équipe de France. C'est Corentin Tolisso au milieu de terrain. On avait longuement débattu de cette possibilité lors du dernier podcast, parce qu'il y avait aussi Nzonzi et Bakayoko qui étaient des prétendants. Et puis Florian Thauvin, devant, qui après un long parcours difficile entre Lille, son nom, son départ à Marseille, ses difficultés, son départ à Newcastle, bah, finalement a réussi à revenir un peu en forme. Tolisso, ça ne t'étonne pas, mais est-ce que Thauvin, par contre, ça t'a plus surpris?
Oui, j'irais même jusqu'à dire que je l'ai pas forcément compris. Je trouve ça un peu tôt, un peu prématuré. Alors oui, il a mis quelques buts magnifiques
Ah bah du coup,
sur les
parce que
dernières.
j'ai regardé ses stats, il est quand même à 10 buts et 5 passes D en Ligue 1 cette saison, ce qui est plutôt pas mal quand même.
Ouais, mais bon, après si tu t'en tiens aux stats, la casette a fait mieux.
Oui,
Après
mais
c'est pas
tu
le même
sais
poste,
qu'il
c'est
ouais,
pas
il
le
va
même
jouer
poste,
couloir.
on est
Donc,
d'accord, mais voilà, des joueurs à 10 buts, 5 passes en Ligue 1, je pense que t'en trouves d'autres. J'exagère hein, quand je dis ça, mais Loïs Yoni, il doit pas en être très loin. Mais
Ouais, par contre,
j'exagère hein,
c'est
volontairement.
couloir, tu vois. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire.
C'est juste que aujourd'hui, Thauvin, bon, je me demande si c'est pas un peu tôt. Après, de toute façon.
Bah, disons qu'on avait parlé de ces couloirs qui sont complètement désertiques depuis que Coman et Martial ont disparu, depuis que Fekir s'est blessé.
C'est ça.
Le Thauvin, c'est finalement lui qui profite de toutes ces absences.
C'est ça, ça a ouvert la concurrence et Thauvin en profite un petit peu comme Ntep en avait profité
Ouais, il y a quelques temps.
il y a quelque temps. Faut aussi se rappeler quand même que Romain Alessandrini a été appelé en équipe de France. Je crois qu'il a eu une sélection et il a un petit peu
Que
profité
Jérémy
d'un
Ménez
trou.
était il y a 4 ans presque
Voilà.
à la Coupe du Monde.
Donc ça ne veut pas non plus dire que c'est un joueur qui va y rester sur la durée. Mais même si Thauvin, s'il y reste pas sur les prochaines, va sans doute y revenir à un moment donné.
Ben
Qui reste à
Arfa, lui
Marseille ou
aussi, est
pas.
passé proche d'être appelé, et puis finalement, depuis qu'il est au PSG, ben, il a perdu cette possibilité.
Voilà. Donc oui, c'est un appel à lui de saisir sa chance et surtout de bien s'intégrer au groupe parce que a priori c'est vraiment la priorité, c'est de pas faire de vagues et de s'intégrer au noyau qui est créé depuis l'Euro. S'il y arrive, peut-être qu'il reviendra à la suivante. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la surprise. C'est lui la vraie surprise de cette liste à mon avis.
Bon, statistiquement, ça se défend, mais c'est vrai qu'en effet, il a une carrière qui est un peu qui est assez imprévisible, donc on ne sait pas vraiment s'il restera très longtemps. Alors, je t'ai demandé, Florent, avant qu'on enregistre, de préparer un petit 11 au vu de cette liste, un 11 compétitif, c'est-à-dire un 11 pour un match qui compte. Bon, le problème, c'est que le seul qu'on va jouer, c'est contre le Luxembourg. Donc, est-ce que c'est vraiment un match compétitif? Je ne
Ouais.
sais pas. Mais si tu devais aligner une équipe demain, ou dans 2 semaines, parce que le match est dans 2 semaines, quel serait ton 11 titulaire?
Alors, mon 11, Lloris dans les buts, évidemment. Hein, de toute façon, il n'y a plus du tout de concurrence le concernant et derrière lui. Donc voilà, numéro 2, Areola ou Costil, peu
Importe.
importe. Ensuite, en défense, bah, la charnière, forcément, vu que Raphaël Varane n'est pas là, bah, on part sur du Koscielny-Umtiti. Je pense que c'est difficilement discutable. À droite, j'ai discu je j'ai
C'est le Luxembourg en face.
c'est le Luxembourg en face, donc tu peux y aller avec Sidibé. Après, je pense que si, en imaginant que le mec devant, ce soit Ousmane Dembélé, face à une équipe un peu plus forte, je ne serais pas non plus contre l'idée d'avoir
Tu peux
un Sagna
surveiller
plus
le couloir pendant que
défensif.
Dembélé s'amuse.
Exactement. Donc voilà, après au milieu de terrain, N'Golo Kanté, titulaire indiscutable de ce milieu. Au côté, sur le papier, moi j'avais mis Pogba au départ, mais a priori il ne sera pas là. Donc faut trouver quelqu'un d'autre. Je préfère à l'heure actuelle Rabiot à Matuidi, surtout dans un milieu à deux, sachant que Rabiot peut prendre en main un petit peu l'animation, etc. Donc voilà, je pencherais plus vers Rabiot si Pogba n'était pas là. Après, je suis quasi persuadé, quasi certain. Que si Pogba n'est pas là, on aura un milieu Kanté Matuidi. Ça, je pense que je me trompe pas en imaginant
Oui,
cela.
Deschamps accorde pas mal d'importance à l'ancienneté, donc en
Voilà.
général, oui, il y a rarement des joueurs qui d'un coup sautent la hiérarchie soudainement.
Exactement. Sauf s'il y a des blessés, etc. Du coup, tu as noté que j'ai pas parlé du latéral gauche parce que j'ai parlé du côté gauche en entier et
Eh
c'était un
oui,
petit peu un spoiler tout à l'heure ou
tu es
un
quelqu'un de
teaser.
cohérent, j'ai l'impression.
Exactement. Donc, je mets Mendy et Lemar côté gauche. Bah parce qu'aujourd'hui, de toute façon, même au niveau européen, est-ce qu'il y a un côté qui marche aussi bien que ça? C'est assez compliqué à dire. J'essaie de me remémorer les côtés gauche des 8 derniers engagés en Ligue en des Ligue Champions, des Champions et je vois pas, à part Alexandro qui est un mec,
il y a de plus en plus d'équipes qui jouent à 3 derrière, donc c'est compliqué d'avoir des vrais côtés gauche.
Mais à part Alexandro qui est capable d'animer le côté tout seul, je vois pas beaucoup mieux que Mendy Lemar, donc pourquoi ne pas s'en servir. Ensuite, à droite, j'en ai déjà parlé, Dembélé. En 10 ou attaquant de soutien, comme vous voulez, puisque c'est entre le 4-4-1-1, le 4-4-2, 4-2-3-1. Donc Antoine Griezmann, évidemment. Et devant, puisque Gamero est un peu en difficulté et que Giroud ne joue pas, Kylian Mbappé, hein, directement.
Ah ouais, tu tentes l'association entre les deux. Ouais. Après, c'est deux joueurs qui sont meilleurs face au jeu. Donc c'est contre le Luxembourg, est-ce que tu en vas, on va pas avoir des difficultés face au bloc très bas qui nous attend? Bon, après, j'imagine que tu fais un 11 plus général et si on devait affronter un vrai adversaire.
Oui. Pas forcément dans une config Luxembourg. Dans une config Luxembourg, je pense que Deschamps, il mettra Giroud. Hein.
Ouais,
ne serait-ce sûr. Que pour envoyer des centres et mettre la tête, quoi.
Non, mais écoute, c'est une compo. Je suis assez convaincu. En fait, je vois que difficilement comment contester le 11 que t'as fait. À part si on veut mettre un Tolisso d'entrée. Mais en effet, vu l'absence de Pogba, le milieu à 3 est beaucoup moins justifié. Et ce milieu à 2 te permet d'associer deux attaquants devant, que ce soit Griezmann et Gamero et Giroud ou Griezmann et Mbappé. En effet, ensuite, dans les couloirs, t'as des solutions. Après, j'ai du mal à imaginer que Payet soit directement sur le banc. Je sais pas pourquoi. Je vois, si Deschamps le prend, j'imagine que c'est qu'il le considère encore comme un joueur important. Après, en effet, Mendy Lemar, c'est assez évident que ça peut très très bien fonctionner.
Après Payet a pour lui les coups de pied arrêtés qui peuvent être importants contre un adversaire comme le Luxembourg pour débloquer. Mais bon, Thomas Lemar est plutôt bon aussi dans cet exercice. Donc il y a aussi ça qui peut jouer. Et tu parlais de Tolisso, c'est vrai que la solution Tolisso aussi, si tu es un petit peu poussé et limité à envoyer des centres pour un petit peu aller parer au plus pressé et mettre ton but rapidement.
Ouais, il a une capacité à aller jouer de la tête des ballons. Ouais.
Exactement, il a une capacité à aller jusque dans la surface. Et puis sur ce match-là contre le Luxembourg, tu peux oser canter Tolisso et lâcher Tolisso, parce que canter de toute façon en couverture contre les Luxembourgeois, je pense que... Il peut couper 4 possibilités de contre en 30 secondes, quoi. Comme il l'a fait en première ligue, je pense qu'il peut faire contre le Luxembourg aussi.
Ce dont j'ai peur dans le milieu, quand Mathieu dit que Deschamps va sans doute aligner, c'est dans la distribution du ballon. Pardon. On va revivre un match qui était il y a quelques années contre la Géorgie, je crois, où c'était Sissoko et Guilavogui qui étaient alignés dans l'axe ensemble. Je sais pas si tu te rappelles de ce match, mais c'était que des passes latérales, des joueurs qui étaient incapables de faire avancer le jeu autrement que par la conduite de balle un peu musclée. Donc j'espère qu'on va s'adapter à cette confrontation qui va sans doute être un peu ennuyeuse, comme beaucoup de matchs contre les petites équipes
après,
de qualification.
Après, si Umtiti et Koscielny jouent et si eux prennent en charge cette relance
en
montant avec le ballon, les deux en sont capables et ça peut permettre de passer outre des milieux qui joueraient de manière très latérale.
C'est aussi là que tu peux taper sur Giroud au but, mais comme tu aurais pu le faire sur la casette qui est très très bon dans la combinaison. On vient à cette absence. J'ai une question qui peut nous intéresser, Florent, de Alexandre Leroy sur Twitter, Alex Lair, qui nous demande quels sont les postes qui ne sont pas encore verrouillés en vue de la Coupe du Monde. Alors, on sait que c'est dans un an et demi, donc en effet, il y a du temps pour mettre en difficulté ces idées-là, mais où est-ce que tu vois de la place à prendre pour les joueurs français?
Alors, si on fait ligne par ligne, le gardien pour le 11
c'est terminé,
départ, c'est bouclé.
Depuis 7 ans, c'est terminé. Ouais.
Et la vraie question concernant le gardien, c'est quand est-ce que ça va se rouvrir, parce que Lloris a l'air parti pour durer pas mal de temps.
Quand il y aura un mec derrière qui poussera vraiment. Pour l'instant, Areola n'a pas du tout réussi à...
C'est vrai. Pour l'instant, c'est
assez... concurrencer. Alors, Lafont est encore jeune. Il faudrait voir avec les nouvelles générations. Bernardoni.
Il y a du temps.
Jérôme Prieur. Voilà. Il y a du temps pour Lloris, qui, de toute façon, n'est pas si vieux. Hein, donc,
Ouais. Il peut voir venir, sachant qu'en plus, les gardiens, ça peut durer très longtemps s'ils restent sérieux. Ouais, ouais. Après, en défense centrale, Varane Koscielny, avec une petite qui pousse, ça va être très dur pour quelqu'un d'autre d'aller chercher une place. À mon avis, ça reste quand même ouvert dans la concurrence entre les trois. Sachant que Koscielny préfère jouer axe gauche à Arsenal, mais a aussi joué axe droit en équipe de France, donc ça va vraiment être une guerre ouverte entre les trois, une vraie concurrence avec à mon avis aujourd'hui un avantage Varane Koscielny, mais bon, si Umtiti s'impose en tant que défenseur titulaire au Barça, et ça a l'air bien parti pour, je vois mal Je pense que ça se répercutera aussi sur.
Est-ce que celui qui n'est pas le plus en danger, c'est Varane finalement? Parce qu'on sait que même avant sa blessure, entre Pepe et lui, il y avait encore cette concurrence.
C'est vrai, et là, il a vraiment du mal à s'imposer dans cette charnière du Real. Pepe Ramos, en même temps, faut les bouger parce que t'as peut-être deux des meilleurs joueurs à ce poste peut-être les 10 dernières saisons. Donc voilà, c'est une grosse concurrence. Après, Deschamps lui a quand même toujours fait confiance. Il en a fait son pilier, malheureusement, pour la préparation avant l'Euro. Je crois que c'est l'un des seuls qui avait joué tous les matchs ou un truc. Il y avait une stat comme ça. Et puis finalement, il se blesse juste avant. Donc à voir, mais ça va être assez ouvert, je pense, entre les trois. Après, sur les côtés, c'est très ouvert, et à la fois au poste de latéral et au poste de milieu. Après, si un joueur comme Mendy réussit à poursuivre sur sa dynamique actuelle, je pense qu'il va verrouiller ce poste à gauche assez rapidement.
Pour son bien, je pense qu'il devrait faire encore une saison à Monaco avant de quitter le club. Faire jusqu'à 2018 à Monaco.
Ouais, c'est sûr que là, il risquerait rien et il resterait dans, on va dire, le confort actuel, même s'il y a ses qualités aussi, évidemment, mais où il est sûr de jouer, il n'est pas mis en concurrence, il est dans un système qu'il connaît, des joueurs autour de lui qu'il connaît, donc c'est vrai que ça serait... La sécurité, de toute façon, ce sera la sécurité pour beaucoup de joueurs hein, l'été prochain, en vue de la Coupe du Monde. S'ils sont dans le groupe France,
après, ce sera quelque chose aussi. Les Monégasques, c'est un club destiné à revendre à un moment pas mal de ses joueurs. Donc, c'est pas forcément eux qui vont choisir. Quoi.
Après, Mandine, c'est sa première ou deuxième année à Monaco là.
C'est ça, bah, il me semble que c'est sa première. Là. Il a été recruté l'été dernier.
Voilà, donc je serais pas surpris qu'il en fasse au moins une autre. En général, ça reste...
Oui. C'est sa première, parce que je me souviens des très bons matchs de Echegilé la saison passée.
Oui, c'est vrai. Donc non, je pense que Mendy, s'il doit partir, ce sera pas cette année, plus l'année prochaine. Après, bon, ça peut aller très vite, hein, mais je vois bien Monaco faire... Le schéma traditionnel, c'est on prend un joueur, on le garde 2 ans, et puis on le revend après, quoi.
Après, la peur que j'ai avec Mendy, et en général avec le poste latéral gauche, c'est que ça fait maintenant 3-4 ans qu'on a à chaque fois un mec qui émerge, et on se dit qu'il va enfin succéder à Evra, s'il arrive avec Digne, s'il arrive avec Kurzawa, et les deux ont disparu, Evra a disparu, et de toute façon ça n'a jamais été un joueur aussi bon que les clubs par lesquels il est passé, donc j'espère que Mendy va continuer sa courbe, Bielsa lui a promis un très bel avenir, on a raté Guerrero qui a pris le Portugal, il faut déconner maintenant.
C'est vrai. C'est le moment, et c'est un peu pareil à droite, hein, où c'est pas du tout verrouillé, et où là, en plus, il y a qu'un joueur qui pointe, c'est Sidy B. Sagna est toujours là, et je pense que Sagna, autant Evra, on va pas le voir à la Coupe du Monde, j'en suis persuadé, autant Sagna, il y a pas de raison, à l'heure actuelle, qu'il n'y soit pas. Reste à voir l'évolution d'un Sébastien Corchia, s'il reste à Lille l'été prochain et avec Marcelo Bielsa, peut devenir.
C'est vrai.
Voilà, c'est quelque chose à surveiller. Ensuite, au milieu, de toute façon, on en a parlé tout à l'heure, autour de Kanté, Pogba, Matuidi, ça va être très dur d'intégrer ce groupe-là. Surtout si ça joue à 2, ça va être encore plus fermé. Si ça joue à 3, peut-être que qu'un jeune peut s'introduire dans les 3, mais ça va être, à mon avis, très compliqué. Et ensuite devant, j'en ai déjà parlé sur les côtés, c'est très ouvert. Tu vois, il y a un an, Martial devait être big thing.
Laurent le fait avec Martial et Coman. Hein.
Ouais, voilà. Et là aujourd'hui, ils ne sont même plus dans le groupe. Donc sur les deux postes, sur les côtés, c'est très ouvert. Et
puis t'as l'affaire juridique de Benzema, si elle est réglée, qui peut changer pas mal de choses.
Et idem au poste d'avant-centre où. Il y a un poste juste devant Griezmann qui n'est pas pris. Donc voilà, on va dire que la colonne vertébrale de l'équipe pour la Coupe du Monde, on peut dégager des noms sans forcément dégager les titulaires, c'est-à-dire
Lloris. Tu sais qui va jouer dans l'axe, mais tu ne sais pas encore comment ça va être accompagné.
Exactement. Et tu vas avoir une colonne vertébrale, Lloris, Koscielny, Varane ou Umtiti au milieu, Kanté, Pogba ou Matuidi, donc en défense les trois premiers évidemment, vous aurez corrigé.
Ouais.
Kanté, Pogba ou Matuidi au milieu, Griezmann derrière l'attaquant, et ensuite tu as 5 postes où c'est aujourd'hui encore très très ouvert. Mais bon, à 15 mois de la compétition, c'est pas forcément... un signal, enfin un facteur de pour s'alarmer ou quoi que ce soit. C'est assez logique et je préfère d'ailleurs avoir du mal à choisir parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité qui vont et qui viennent malheureusement au gré de leur forme ou de leur choix de carrière que ne pas avoir de colonne vertébrale et me demander avec qui je vais jouer dans un an quoi.
Oui, et puis on a des certitudes dans l'axe en tout cas qui nous permettent ensuite de construire autour de ces joueurs-là.
C'est ça.
Bon, on a fait le point sur l'équipe de France. Merci pour la question. On a sélectionné celle qui nous paraissait intéressante. Et en effet, c'est une équipe qui est encore à dessiner pour Didier Deschamps, mais on a encore quelques certitudes. On va passer à la Ligue des Champions. Florent, le tirage a eu lieu aujourd'hui. Il y avait Monaco parmi ce tirage. Monaco qui était là parce qu'il a réussi à gagner 3-1 contre Manchester City lors de son match retour à Louis II dans un stade qui était comblé pour une fois. Un match qui nous a rappelé en fait que la Ligue des Champions était une très belle compétition, puisque après PSG-Barça et après Leicester-Séville, encore une équipe qui a inversé le cours des choses. Et là, cette fois, on a trouvé un Monaco, surtout en première mi-temps, très fort dans sa capacité à tenir le ballon, pourtant face à une équipe de City qui aime ça.
Ouais, alors moi il y a deux volets. Tu parlais de PSG-Barça et justement de Leicester-Séville. Avant de rentrer dans le détail de ce match entre City et Monaco, il y a quelque chose moi qui m'a marqué sur ces trois matchs-là, c'est l'approche totalement manquée de la part de
Des coachs
l'équipe.
qui étaient en avance, c'est ça que
Voilà,
tu veux dire.
des coachs qui étaient en avance, c'est-à-dire Sampaoli qui menait 2-1, Emery qui menait 4-0 et Guardiola qui menait 5-3. Alors il y a soit les coachs, soit les joueurs, soit le message entre les deux qui n'est pas passé. Enfin bref, on en avait déjà assez parlé sur
Oui,
Barça-PSG, à qui la faute, etc.
avec cette difficulté à chaque fois pour distinguer en effet les responsabilités.
Voilà, mais ça de toute façon on peut pas le savoir. A priori, je crois que Guardiola a pourri comme il avait jamais pourri ses joueurs en conférence de presse après le
Bah,
match à
Clichy, je
Monaco.
crois que Clichy a dit qu'ils avaient fait le contraire de ce qu'ils voulaient.
Voilà.
Bon,
Après.
après, Rabiot avait aussi dit qu'ils n'avaient pas fait ce que voulait faire Emery, et puis finalement, on ne sait pas trop si c'était 5 ou 10 mètres d'écart ou un plan de jeu d'écart, donc c'est difficile en effet de
Exactement.
savoir.
Moi, ce qui m'a choqué sur le match de City et leur première mi-temps en particulier, c'est bon, ils ont été gênés par le pressing de Monaco. Ça, ok, on pouvait un peu s'y attendre. Moi, déjà, la compo de base, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à peut-être au même système utilisé au match aller, puisque en plus, les joueurs qui manquaient à l'aller, enfin qui manquaient au retour, étaient sur le banc. Touré était sur le banc, Otamendi était sur le banc. Donc, je m'attendais vraiment à la même chose côté City. Et du coup, le fait de voir cette équipe sans Yaya Touré, sans Otamendi, même si c'est pas non plus un gros relanceur, c'est un joueur qui peut prendre certaines responsabilités, notamment pour porter la balle, il l'avait fait au match aller. Je m'attendais à ce que l'équipe ait des difficultés avec la balle, et ça a pas loupé. Pour sortir, ils ont eu énormément de mal. Et à côté de ça, en plus, en première mi-temps, au-delà de leur difficulté pour sortir le ballon, ils ont eu aussi énormément de peine à mettre la même intensité qu'à l'aller. À l'aller, et c'était un petit peu passé au second plan parce que le match était fou, etc. Mais en termes d'efforts défensifs et d'intensité dans les courses, etc., City avait fait un très très gros match. Les gens n'y avaient pas forcément peut-être fait attention.
Moi, ce qui m'a choqué, par exemple, c'est pourtant c'est étonnant de la part de Guardiola, c'est quand le Monaco pardon, avait le ballon dans son camp au niveau du rond central, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun plan pour récupérer le ballon.
C'est
Tu
ça.
sentais que les joueurs de City coulissaient, mais à aucun moment il y avait un accès au ballon qui te permettait de remonter le bloc, alors qu'en principe, Guardiola ne veut jamais défendre en reculant ou en attendant dans son camp. C'est ça qui m'a
Exactement.
choqué. J'avais l'impression de voir une équipe qui n'était pas du tout une équipe de Guardiola.
Ben moi, ce truc-là, je le mets sur le côté le manque d'intensité, des joueurs qui n'ont pas assez couru, qui ne sont pas assez sortis, qui n'ont pas assez mis la pression. À l'aller, je me répète, mais tu avais une équipe de City qui envoyait un ou deux joueurs au pressing pour forcer le jeu long, et ensuite sur le deuxième ballon, mais ils étaient présents. Ils avaient aussi un avantage à l'aller qu'ils n'avaient pas au retour, c'était pour négocier les deuxièmes ballons. Ils avaient une défense quand même assez forte dans les airs, même si bon, t'as toujours John Stones. Et ils avaient quand même surtout un numéro 6, Yaya Touré, qui, s'il court pas beaucoup, reste quand même
Grand.
un grand et un bon platane planté au milieu et pour protéger sa défense centrale, qui en plus, justement, est à la peine sur ce genre de situation où si elle gagne pas le duel aérien, elle peut être prise dans son dos très facilement. Et là, sur ce match-là, ils avaient Fernandinho. Et Fernandinho, autant un joueur comme Germain, Yaya Touré, il peut pas aller l'attaquer de la tête. Au match retour, Germain, il peut attaquer Fernandinho de la tête. En plus, c'est pas un mauvais joueur dans ce registre-là, Valère Germain. Donc, ce qui fait que la bataille pour les deuxièmes ballons, déjà, ils étaient autant à l'aller, ça tournait assez souvent à l'avantage de City, en tout cas dans mon souvenir. Autant au retour, City a vraiment pris l'impact de Bakayoko, de Fabinho, qui ont fait une très très grosse première mi-temps aussi, il faut le
Ouais,
signaler.
bah c'est ce qu'on avait imaginé en fait avant l'aller, c'est que ces joueurs-là ont le volume pour couvrir 40 mètres tout seul.
Voilà. Et donc, sur ce point-là de l'intensité, City n'a pas joué un match de Ligue des Champions en première mi-temps. Alors ensuite, il y a la deuxième période, où là, ben on a le match totalement à l'envers, où City met ce qu'il faut, où City ressort la balle avec enfin John Stones qui porte le ballon.
Oui, oui, avec deux hommes, c'est en effet John Stones qui a répété les conduites de balle, les passes vers l'avant en allant fixer très très haut, et De Bruyne qui a reculé et qui a commencé à distribuer le jeu dans une position presque de à la Pirlo.
Ouais, De Bruyne c'est le gros changement sur le plan tactique. Je pense que Guardiola a réveillé ses défenseurs et notamment John Stones, parce qu'en première mi-temps, John Stones avait souvent la possibilité de prendre la balle, de porter et de donner. Il ne l'a pas fait. Et du coup, bah, vu qu'il passait la balle dans une position basse, bah, le bloc restait bas et du coup, il prenait la pression. Et notamment, un joueur comme David Silva, qui a été très mauvais en première mi-temps, c'est parce que la plupart des ballons qu'il touchait, c'était dans son camp, c'était dos au but. Et c'était en plus avec la pression énorme de Bakayoko ou de Fabinho dans le dos. Et ce qui a fait qu'il a perdu 2-3 ballons dangereux dans mon souvenir. En deuxième mi-temps, et c'est là, il faut quand même reconnaître que Guardiola n'est pas non plus totalement à la ramasse, c'est qu'en changeant ça, donc en demandant déjà à Stones d'en faire plus, mais au final de faire de ce qu'il aurait dû faire en première mi-temps, mais en changeant surtout De Bruyne par rapport à Silva, De Bruyne, c'est dans ce registre-là, très bas, c'est son jeu long qui a fait beaucoup de mal à Monaco. D'ailleurs, sur le but, hein, je crois.
Ouais, ça part d'une longueur transversale vers le côté droit, en effet.
Et il avait une capacité, à, quand il décrochait, à toujours orienter le jeu et à faire des passes de 20-30 mètres, ce qui fait que tu sortais forcément de la zone de pression de Monaco. Et du coup, bah, City pouvait progresser ensuite et faire reculer le bloc monégasque.
J'ai l'impression que ces deux joueurs en deuxième mi-temps, c'est les rares satisfactions d'un City sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils ont un défenseur central qui, avec le ballon, a prouvé qu'il était capable de faire de très grandes choses, qui doit encore progresser défensivement, et ça, faudra le coacher. Et un De Bruyne qui confirme que, quel que soit son poste, bah, il fait partie des 10-12 meilleurs joueurs du monde, finalement.
Ouais, De Bruyne fait, à mon sens, une deuxième mi-temps assez exceptionnelle, sachant que bah, c'est pas du tout dans son registre, etc.
Et c'est loin d'être la première fois que dans un grand match de City, c'est le meilleur joueur. Hein.
Et à côté de ça aussi, sur la deuxième mi-temps, David Silva est assez exceptionnel, parce qu'il retrouve justement les ballons touchés entre les lignes de Monaco, et là par contre il a fait un petit carnage, hein. Je sais pas combien, comme à l'aller où il avait vraiment rayonné, je crois qu'au retour il doit donner aussi pas mal de passes qui créent le décalage ou qui lance un de ses ailiers dans la profondeur. Bref, très très gros match, enfin très grosse deuxième mi-temps de sa part, en tout cas dans l'utilisation du ballon. Et, et donc voilà, après la deuxième mi-temps, j'ai pu lire ça et là que la qualif de Monaco était logique et assez large. Sur la deuxième mi-temps, ça peut aller vraiment pencher dans un sens comme dans l'autre. Hein. Agüero rate, je crois, deux face-à-face. En tout cas, il en rate un gros avec Subasic. Voilà, si Agüero... Donc,
Monaco se qualifie sur ses premières périodes, sur les deux matchs, finalement.
Oui, Monaco se qualifie sur ses premières périodes et même sur la deuxième contre City au match retour. Voilà, le coup franc de Bakayoko, ça bascule... C'est un détail,
tiré,
c'est pas une grosse occasion.
Monaco tiré par Thomas Lemar, comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais. Très bon tireur de coup de pied arrêté.
Monaco se crée, je crois, deux tirs sur la deuxième mi-temps. Ils en avaient eu plus au match aller. Voilà, le match bascule. En effet, comme tu le dis, ça se joue sur les deux premières mi-temps où Monaco est largement supérieur. Mais voilà, de toute façon, après, il suffit de voir le cumul des deux matchs. On finit à 6-6. C'est assez logique quand on connaît les deux équipes, leurs points forts, leurs points faibles. Et bon, ce 6-6 se bascule en faveur de Monaco. Tant mieux pour Monaco, mais je ne suis pas sûr que l'écart était si énorme entre les deux formations, comme on a pu le lire à gauche ou à droite.
Alors, et puis ce midi, il y a eu le tirage de Ligue des Champions, et Monaco est tombé sur le Borussia Dortmund de Thomas Tuchel. Donc ouais. on peut partir, Florent, sur un match assez similaire en termes d'occasions créées et de buts inscrits. De mon côté, je pense que c'est un excellent tirage pour Monaco. Pourquoi ? Parce que Dortmund paraît être la moins bonne défense des 8 qui restent en lice. Ils prennent énormément de buts en Bundesliga, même quand ils marquent. C'est une équipe qui manque de certitude derrière, et surtout avec un milieu de terrain très joueur, mais un Weigl, par exemple, qui me semble à l'opposé de joueurs comme Bakayoko et Fabinho, qui aura du mal à défendre quand Lemar et Bernardo Silva vont venir à l'intérieur. J'ai l'impression que dans cette opposition entre deux équipes qui misent sur des jeunes joueurs hyper talentueux, Monaco a plus de certitude défensivement qu'une équipe de Dortmund très très joueuse, mais un peu fofolle.
Ouais, Monaco, je pense, a tout simplement des défenseurs de meilleure qualité aujourd'hui que Dortmund, dans les 1 contre 1 notamment. Quand tu prends la défense centrale, Glick, Jemerson d'ailleurs, faut signaler ses progrès quand même, C'est quand même assez impressionnant par rapport à quand il est arrivé.
Bah,
C'est pas non
il
plus.
était tout de même surnommé Blackenbauer.
Oui, c'est vrai. C'est
ce
vrai,
qui est
c'est
bizarre,
vrai.
c'est qu'on le voit pas pour sa relance en fait. C'est ça qui est, tu vois, quand t'es surnommé Blackenbauer, en général, on dit que le mec va sortir balle au pied et tout, mais
Ouais.
c'est pas vraiment
Mais
ça.
c'est vrai qu'entre Glick et Jemerson, je pense que la défense centrale de Monaco est supérieure à Sokratis Bartra, du coup, en ce moment, du côté de Dortmund. Non, mais très, très. Enfin, c'est une très bonne équipe offensivement. J'ai récupéré un petit peu les chiffres des 8 derniers engagés en Ligue des Champions, là, tout ce qui est expected goals par tir, etc. Et Dortmund, c'est la deuxième meilleure attaque en termes de production, derrière le Real Madrid et devant le Barça. Alors en termes de expected goals contre, oh, en effet c'est une des pires défenses, juste devant Monaco qui est à 0,92 et Leicester qui est assez loin à 1,38. Mais ce qui est le plus intéressant en fait dans ce duel entre Monaco et Dortmund, c'est que tu as les deux équipes qui se créent les occasions, les meilleures occasions. Dortmund c'est du 0,133 et c'est, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, c'est deuxième européen derrière Manchester City. Donc Monaco un petit peu attire ces équipes-là. S'ils tirent le Barça en demi-finale, s'ils passent et qu'ils tirent le Barça en demi-finale, ils auront fait les 4 ou 5 meilleures équipes
Et ensuite
pour
le PSG
avancer.
en finale, évidemment.
Ah
Ah
ouais.
non, ils sont plus là. Donc.
Et le PSG était pas mal, ouais, à ce niveau-là. Et
Merde.
c'est vrai qu'en termes d'occasion, enfin sur le plan défensif, c'est une équipe, oui, qui concède des grosses occasions. Qui concède peu, mais qui concède des grosses occasions. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu deux équipes à la construction et aux ambitions similaires et aux stats similaires avec un gros penchant pour l'attaque. Après, il y a quelque chose que Monaco a en plus par rapport à Dortmund, c'est que Monaco a fini beaucoup mieux les actions et est capable de marquer dans des positions plus compliquées que Dortmund. C'est-à-dire, si tu reprends les expected goals sur la saison, c'est-à-dire que Monaco en attaque, je crois, ils sont à plus 30 buts marqués par rapport à ce que prédisait le modèle, et Dortmund, ils sont à plus 5. Donc ça veut dire que Monaco est une équipe qui a des joueurs de talent capables de marquer dans des positions plus compliquées.
Oui, et puis Falcao sera de retour logiquement. Il n'était pas là pour le retour contre City. Là, il devrait être là pour le match aller contre Dortmund.
Voilà, alors dans un match pareil, et de toute façon quand tu arrives en quart de Ligue des Champions, le réalisme est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Et du coup, une équipe comme Monaco, a priori, en tout cas sur la saison, est aujourd'hui sur une dynamique qui la rend, qui lui permet sans doute d'être plus facilement réaliste et efficace devant le but qu'une équipe comme Dortmund qui a vraiment besoin d'actions menées jusqu'au bout. Bah, de toute façon, il suffit de prendre les attaquants. Aubameyang est un joueur qui finit les actions, mais souvent dans des positions idéales. Il finit beaucoup,
Oui,
mais
souvent des actions alors qu'il n'y a plus le gardien.
voilà. À Monaco, les attaquants sont capables de finir dans des positions beaucoup plus variées, et c'est ce qui peut leur permettre de faire la différence dans un match où bah, ça sera un peu plus fermé. Mais là, pour le coup, tu vois, je parlais au cumul des deux matchs, Monaco City, on était sur un 6-6. Je serais pas surpris qu'on termine la double confrontation
Oui,
Monaco-Dortmund
c'est un score
dans les
similaire.
mêmes eaux, en tout cas des deux côtés.
En tout cas, c'est un match inédit ou en tout cas qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. J'ai pas cherché là-dessus s'il y avait déjà eu un Monaco Dortmund. Et un match, donc on l'a dit, entre des équipes très jeunes, très rapides. Donc on risque en tout cas de s'amuser. Le reste du tirage a été pas mal non plus, Florent.
Ouais.
Avec, je vais rappeler Barça Juventus, Real Madrid Bayern et Leicester Atlético Madrid. Quel match tu retiens le plus de ces trois?
Bah, j'aime les trois. J'aime les trois pour différentes
Ouais, mais
raisons.
tu n'as droit qu'à un seul polygame.
J'ai droit qu'à un seul.
Non, pour le
Bah.
plus, pour le celui qui t'intéresse le plus, en tout cas là à l'heure actuelle, où tu dis celui-là, faut pas que je le rate, je peux pas aller au resto ou au ciné ce soir-là.
Bah, le problème de Barça-Juve, je crois que c'est qu'il tombe en même temps que Dortmund-Monaco. Donc, je pense que je ferai le choix de Dortmund-Monaco. Mais sur le deuxième, oui, je pencherai plus pour Bayern-Real que pour Atlético-Leicester. Mais ça, c'est assez.
C'est évident,
C'est
oui.
assez évident.
Bon, en fait, Leicester, je trouve que si Ranieri était encore là, on aurait un peu de tendresse pour cette équipe pour se dire putain, le gars, il est champion, il a un parcours. Mais maintenant qu'ils ont viré Ranieri comme un mal propre et que les joueurs se sont soudainement réveillés après son départ, il y a un petit goût d'amertume,
Ouais.
je trouve, de la part des gens qui ont suivi ce club.
C'est vrai. Après, quand tu prends Atlético Leicester, pour reprendre les chiffres dont j'ai parlé tout à l'heure, Atlético Leicester, c'est les deux plus mauvaises productions offensives, pour pas parler d'attaque. des 8 derniers engagés, l'Atlético est à 1,33 par match, Leicester à 1,27, donc c'est quand même assez faible. Et même chose en termes de qualité des occasions, l'Atlético à 0,101 et Leicester 0,113, sachant qu'il y a le Bayern entre les deux à 0,110, mais le Bayern a des finisseurs de plus grande qualité que ces deux-là. Et au niveau de la défense, l'Atlético fait partie des meilleurs, Leicester c'est la pire, et voilà.
Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est 2-4-4-2 à l'ancienne qui s'affrontent.
C'est ça. Et là, le vrai challenge pour Simeone, ça va être un gros test pour lui et pour son équipe. Ça va être, ils vont être dans la position de l'équipe qui va devoir déverrouiller un 4-4-2 qu'ils connaissent assez bien au final.
À ce stade-là, la compétition, ça leur est rarement arrivé. Ça leur en effet arrivé peut-être en 8e ou avant en poule, mais quand ils arrivent en quart là, et qu'ils doivent faire le jeu pendant 180 minutes... En effet, j'ai pas souvenir d'une opposition comme ça pour l'Atlético.
Maintenant, ils prenaient tout le temps le Barça ou le
Bayern, ou le Real en finale.
Donc c'est vrai que c'est assez nouveau pour eux et on va voir comment ils vont négocier. En tout cas, on va pas se le cacher par rapport à Séville et aux joueurs du FC Séville et aux joueurs de Leicester, ils auront un gros avantage sur le plan de l'expérience sur les dernières saisons. Pour aborder ce match-là.
Simeone aussi, lui, sait comment jouer ces matchs-là.
Simeone sait comment jouer ces matchs-là. Je pense qu'il sait aussi jouer ces blocs-là. Alors, est-ce que...
Je sais, la dernière fois, quand c'est arrivé pour l'Atlético, ce match-là, à ce stade-là de la compétition, ils ont dû faire le jeu, c'est le, rappelle-toi, le Chelsea à l'Atlético, avec Mourinho qui vient faire 0-0 à Calderon.
Oui, c'est vrai.
Et au retour, il prend 3-1 à Stamford Bridge avec un Atlético qui a su faire le jeu à l'époque.
Et au retour, le match retour assez exceptionnel d'ailleurs, ce 3-1, ouais, assez mémorable.
Avec l'époque d'Arda Turan, Diego Costa.
C'était un petit peu la passation de pouvoir d'ailleurs entre les deux, entre Mourinho et Simeone, dans le sens antithèse du Barça.
Mais t'as parlé du Bayern-Real, Florent.
Ouais.
Pourquoi ce Bayern-Real, en dehors évidemment de Ancelotti contre Zidane, le successeur, le maître et l'élève, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce match?
La guerre des coups de pied arrêtés. La guerre sur les coups de pied arrêtés du Real, parce que on en avait parlé dans le dernier podcast en toute fin d'émission. Donc le Real a débloque quand même pas mal de situations en ce moment, alors qu'il est un petit peu en difficulté, on va dire, dans le jeu. Mais c'est même assez global, c'est pas qu'en attaque, hein, c'est dans les deux surfaces, dans les deux moitiés de terrain. Voilà, Sergio Ramos, coup de tête, les corners de Toni Kroos ou les coups francs de Toni Kroos. Et c'est vrai qu'en face, là, pour le coup, ils vont tomber sur un Bayern qui est armé sur le plan physique pour leur répondre dans les duels aériens.
Mauvais match-up, comme on dit en NBA.
Ouais, c'est ça. En tout cas, pas de match-up à l'avantage du Real cette fois, par rapport surtout au match face à Naples où là, le Real était vraiment au-dessus en termes de taille et de gabarit dans l'ensemble. Et le Bayern est une équipe qui prend très peu de buts sur coup de pied arrêté et qui prend très peu de buts de la tête. Donc, et en plus, il faut ajouter à ça Ancelotti, qui a été un peu le gars qui a lancé cette série folle de Sergio Ramos avec Toni Kroos pour tirer les coups francs, qui sans doute a aussi mis en place à l'époque pas mal des séquences et des combinaisons que peut mettre en place le Real sur coup de pied arrêté avec les jeux d'écran dans la surface de réparation, etc. Donc ça aussi, il connaît. Donc c'est vrai que évidemment, tout le match va être intéressant, mais rien que je pense qu'à décrypter et à analyser, tu prends chaque coup de pied arrêté du Real Madrid dans ce match et tu regardes comment on défend le Bayern, je suis sûr qu'il y aura plein de choses intéressantes à voir. Donc ça, déjà, un accent sur ce point-là. Après, le match dans l'ensemble, on a deux équipes qui produisent beaucoup offensivement, qui n'ont pas forcément des attaques, qui tournent quand même de la meilleure des façons à l'heure actuelle. Donc ça va aussi beaucoup dépendre de la forme des talents de chaque côté. Gareth Bale, est-ce qu'il va enfin revenir? Lui qui est revenu de blessure en février, il va peut-être pouvoir se remettre dans le rythme jusqu'à...
Bale face à Robben, c'est pas mal, dans le duel des gauchers qui repiquent et qui envoient une mine.
Jusqu'à mi-avril, ça peut lui permettre de retrouver ses jambes, parce que c'était quand même lui le meilleur joueur de la BBC avant sa blessure. Donc voilà, vraie guerre au milieu aussi, Modric, Thiago, Vidal, Kroos. Donc voilà, de toute façon, Bayern-Real, si tu prends les 8 équipes engagées, ça aurait pu être une finale.
C'est deux des trois meilleurs effectifs au monde. Donc,
voilà. Donc match très... de toute façon, que je suivrai de près. Et c'est évidemment l'affiche à ne pas manquer de ces quarts de finale.
Reste à savoir si Sergio Ramos ratera son penalty ou mettra la tête dans le but. C'est le suspense sur ce match. L'autre match dont on n'a pas encore parlé, c'est Barça-Juve. Tu l'as dit, on a un peu évoqué tout à l'heure. Avec une question pour introduire ce match de OM Celtic 06. Donc voilà, il supporte à la fois l'OM et les Celtics, hein, on peut pas toujours être parfait dans la vie. Et il demande si la Juve est le pire tirage pour le Barça en quart de finale, parmi les équipes qui étaient encore en lice. Est-ce que tu penses que c'est le, comme on a parlé de match-up, est-ce que tu penses que c'est le pire match-up pour le Barça?
Le pire, je sais pas, ce qui est sûr, c'est que la Juve aujourd'hui est la meilleure défense des équipes engagées. C'est la seule équipe qui d'ailleurs sur les huitièmes de finale n'a pas pris de but. Certes, c'était que Porto en face. Mais voilà, ça reste une stat assez parlante. Ils ont 0,61 XG concédé par match.
Oui, alors pour préciser, parce qu'on utilise souvent ces stats, ça veut dire que l'adversaire a 6% de chance de marquer sur ses frappes en moyenne.
Ouais.
Voilà, pour préciser aux gens.
Donc c'est très bas.
C'est pas beaucoup.
Ouais. C'est très très bas. Et ça, du coup, quand ça veut dire quoi on va encore une fois, on va le traduire. Ça veut dire que la Juve laisse très peu de positions de tir idéales à son adversaire. Et du coup, en face, soit l'adversaire doit ferrailler pour réussir à atteindre ses positions de tir idéales, doit trouver des solutions tactiques, soit l'adversaire doit s'en remettre à certains talents, je vais y arriver, pour marquer dans des positions compliquées. Or, le Barça en a quelques-uns. entre Neymar, Messi et Suarez. Donc, c'est vraiment un match et une double confrontation où le Barça aura absolument besoin, peut-être plus que face au PSG, d'avoir une MSN en état de marche, sachant que face au PSG, il y avait vraiment que le N qui avait vraiment fonctionné, ouais. Même si le S avait un peu bougé et le M aussi quand même.
Ça avait suffi, donc imagine si les trois fonctionnent en même temps. Donc
voilà, sur la double confrontation, c'est ça qui va être capital pour le Barça et aussi pour Luis Enrique. Après, la Juve, offensivement, ça n'a pas l'air d'être la grande joie cette année. De ce que je peux en lire, je l'ai vu très peu malheureusement, en tout cas ça fait quelques semaines, est-ce que je l'ai vu en 2017, je me pose vraiment la question, mais après offensivement la Juve, si elle doit jouer en transition et en contre.
Ah, oui, j'ai une question là-dessus pour toi Florent, justement, puisque la Juve a des latéraux très bons, notamment Alessandro et Cuadrado qui peut jouer côté droit. Si t'es Allegri, qu'est-ce que tu fais, parce que je pense que le Barça continuera en 3-4-3 vu comment ça a marché. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas fermer et jouer un bloc bas et puis tenter de contrer, ou est-ce que tu vas dire à Cuadrado et à Sandro ou à un autre joueur à droite de dire allez vers l'avant, forcer les ailiers à défendre, repousser les... Quel est ton plan sur ce match?
C'est difficile à dire, sachant qu'on est encore assez loin du match, donc on n'a pas non plus les dynamiques des deux équipes, etc. Moi, ce que je pense, c'est que Allegri va densifier l'axe, et s'il défend avec ses trois centraux habituels, ses trois milieux et deux attaquants, il va quand même avoir une belle arme, un beau bloc bien compact dans l'axe pour verrouiller cette zone. Après, la vraie question, ça va être l'explosivité justement de ces joueurs de couloir, d'Alessandro et Cuadrado. Parce que si la Juve, on est encore loin du match, hein, faudra en reparler quand on sera plus près. Mais...
Oui, puis en général, en preview, on n'est pas bon. Donc,
Oui, c'est vraiment plus. Mais si la Juve réussit, tu vois, à verrouiller l'axe, à gratter des ballons et à ressortir en touchant ou Dybala ou Higuain, vu qu'a priori ce sera l'un ou l'autre qui jouera devant. Et si au moment où tu touches Dybala ou Higuain, tu as le Cuadrado ou le Alessandro qui est déjà en position d'ailier et prêt à exploser sur le côté et à partir en contre, là ça peut faire très mal. Là ça peut faire très mal avec la qualité de conduite de balle des deux. Cuadrado l'avait montré contre le Bayern l'année dernière, hein, je crois.
Ouais.
Et sur ce point-là, la Juve, c'est vrai qu'en contre, peut exploiter le 3-4-3 du Barça, vu que le 3-4-3 du Barça, les deux ailiers jouent très très haut dans ce système-là. Donc si sur le plan de l'explosivité, Cuadrado et Sandro sont là, ça peut faire mal. Après, voilà, on est encore loin du match. La Juve n'a pas forcément joué à 3 derrière sur ces dernières semaines. Je lis surtout un 4-4-2 avec Mandzukic milieu gauche.
Oui.
Bon, je serais très surpris qu'on ait ce système-là face au Barça.
Surtout si Messi joue dans l'axe, mettre un mec pour défendre côté gauche comme Mandzukic, qui est un acharné du ballon, ça me paraît pas forcément voilà. Très cohérent. Quoi.
Donc, on verra d'ici là. Il reste 3 semaines. Je pense qu'on essaiera de reparler de ce match quand on sera plus près du coup d'envoi.
Maintenant qu'on a fait le tour de Ligue des Champions, Florent, passons à la Ligue Europa avec la qualification de Lyon. Terre romaine malgré une défaite 2-1, un match où s'est passé ric-rac, un peu comme pour Monaco. On a bien cru que Lyon allait passer à côté, puis ça a tenu, mais disons que le match retour n'est pas très convaincant.
Non, c'est encore plus ric-rac, hein, que Monaco quand même, parce que Monaco a fait jeu égal avec City dans les deux matchs, donc ça n'a pas été le cas de Lyon, qui a été dominé, on va dire, 3 mi-temps sur 4 au final, si on doit résumer par mi-temps, et qui est malgré tout passé. Hier, la qualification, alors Genesio a parlé beaucoup de volonté, de courage. C'est souvent les mots qu'on utilise quand on a beaucoup souffert et qu'on passe avec pas mal de réussite.
De solidarité.
Solidarité, voilà, exactement. On peut aussi quand même parler d'Anthony Lopez qui a été plus que décisif. Je crois qu'il doit faire 3-4 arrêts qui ne sont pas donnés et où il va les chercher.
Si le plan de jeu, c'était de mettre en valeur Lopez pour le vendre cet été, c'était parfaitement réussi.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est réussi. Mais c'est vrai qu'au final, Lyon passe. Alors, c'est vrai que nous, quand on avait parlé de la Roma, on avait dit que c'était la deuxième meilleure équipe de la Ligue Europa, l'une des meilleures attaques d'Europe jusqu'ici. Et au final, c'est vrai que la Roma se fait sortir, mais quand tu regardes les productions des deux équipes, en termes, à nouveau, d'expected goals, mais sur une double confrontation, c'est quand même pas inintéressant. On a une Roma qui termine à 4,3 sur les deux matchs, et Lyon qui est à 2,6. Sachant que là, on en avait parlé aussi dans le dernier podcast, ça ne prend en compte que les tirs, ça ne prend pas en compte les situations, comme par exemple la situation...
Alors, ça dépend des modèles, mais apparemment celui de Michael Calais, et je ne sais pas si tu t'es basé sur celui-là, si. mais il prend en compte les situations où le ballon, les big chances, qui n'ont pas été tentées par les joueurs. C'est un modèle dans Opta, donc à savoir quelle est la définition, mais il me semble que celle de Cornet a été prise, vu les carrés que j'ai vus sur la maps.
D'accord.
Donc je ne sais pas. Mais en effet, Lyon a eu des occasions qui n'ont même pas été des tirs.
Alors, Lyon a quand même eu des occasions au match retour qui sont aussi dues au fait que la Roma était beaucoup plus penchée vers l'avant au fil du match.
À l'abordage,
donc ça expliquait, ouais. Ça expliquait aussi pourquoi Lyon avait ces occasions-là. Mais la vraie question, c'est de savoir si Lyon termine, la Roma termine à 4,3, Lyon est à 2,6. Sur les deux matchs, et Lyon malgré tout
marque 5 buts,
marque 5 buts, et la Roma en met 4 pour 4,3. Pour le coup, la Roma est dans, on va dire, n'a pas forcément eu de problème de réalisme ou quoi que ce soit. Elle a mis ce qu'elle devait mettre. C'est vraiment Lyon qui a mis deux buts un peu venus d'ailleurs. C'est un peu les buts de Fekir et de Lacazette. Autant celui de Tolisso est très bien construit, et Tolisso a une, quand même, il est loin du but, mais il a une belle position pour frapper.
Oui, et c'est une de ses qualités, donc c'est pas
et
non
en
plus
c'est une de ses qualités. Mais c'est vrai que les buts de Fekir et Lacazette ont vraiment fait la différence, sur la double confrontation. Par contre, c'est assez rigolo de voir quand on reste sur les expected goals. Du coup, j'ai regardé sur les 16 matchs auxquels on a eu droit entre Ligue des Champions et Ligue Europa. Sur les 16 matchs, il n'y a que 3 équipes qui se sont qualifiées en étant plus faibles que l'adversaire au niveau des expected goals. Donc ça montre quand même que ça donne une certaine indication, cette stat.
La stat n'est pas n'importe quoi. Ouais.
Et ces 3 équipes, sans surprise, c'est Leicester contre le FC Séville, et notamment parce que le FC Séville rate un péno à l'aller et au retour, parce que sinon dans le jeu, sur les deux matchs, Leicester est à 2,1, Séville est à 2, donc sur les actions dans le jeu, au final c'est pas si
sachant qu'un péno c'est à peu près 0,7, donc t'en mets 2, c'est 1,4, et t'en marques pas, ça fait 0,8 quoi.
C'est ça, et c'est vrai que les deux pénaux manqués par Séville pèsent énormément, parce que ça aurait peut-être plié le match dès l'aller, hein, le pénalty, et ça l'aurait forcément plié au retour, parce qu'un but de Séville en fin de match, je pense pas que Leicester s'en relevait. Et du coup, pour Lyon, enfin non, ça allait en prolongation du coup, qu'est-ce que je raconte. Et la deuxième équipe, donc, c'était Genk face à la Gantoise. Genk qui avait gagné 5-2 au match aller.
Le fameux Genk-Gent.
Ouais, avec un pénalty manqué du côté de Gent. Mais bon, à ce moment-là, Genk menait déjà 4-1. Mais un peu anodin. Et encore l'écart entre les deux, tu vois. Genk finit à 3 et Gent qui est éliminé à 2,4.
Est-ce qu'on peut faire une heure sur le match Genk-Gent juste pour que on n'a rien du tout à ce qu'on dit?
Donc 3 à 2 à 2,4. Donc encore une fois, l'écart entre les deux est assez faible. Mais là, sur Lyon-Roma, t'as quand même une Roma qui finit à 4,3 quand Lyon est à 2,6. C'est-à-dire que tu as 1,7 expected goals d'écart entre les deux équipes. Et 1,7, juste, ça c'est juste rigolo, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'avais relevé les expected goals sur toutes les doubles confrontations. Il y a une autre double confrontation qui se termine avec 1,7 buts d'écart entre les deux équipes. Et où cette fois, c'est l'équipe qui a 1,7 buts d'avance qui passe. Et c'est quand même Manchester United-Rostov.
Oui, donc pour situer à peu près le rapport de force entre la Roma et Lyon, c'est ça que tu veux nous dire.
Pas
C'est similaire à United Rostov et finalement ça passe.
pas forcément parce que Lyon a quand même beaucoup plus de situations. Rostov est bloqué à 1,1 sur les deux matchs, ce qui
Ah oui,
est très
d'accord, oui.
faible offensivement. Lyon fait quand même 2,6, donc si tu as des joueurs de talent, les 2,6, tu peux en faire plus que,
Ouais,
voilà, que ce que tu as fait. Mais voilà, 1,1, 2,8, c'est l'écart entre United et Rostov. Donc voilà, Lyon passe. C'est ric-rac, mais ça passe. Et Lyon se retrouve dans une situation où, et ben, sur les 8 derniers engagés, à mon sens, ils n'ont pas à rougir contre 6 d'entre eux. Le grand favori étant, sans surprise, Manchester United.
alors, on va parler du tirage dans quelques instants, mais d'abord une première question qui a été posée par un certain Vu du Bon Podcast sur Twitter, devant la réaction
Non,
encore.
c'est les cahiers qui l'ont posé au début. Et
Ah,
du coup, on a
on a
rebondi, on
repris.
a fait un sondage pour.
Devant la réaction encore un peu énervée des Lyonnais, malgré le fait d'atteindre les quarts de finale, on a demandé si Genesio était nul. La réponse était oui à 80%. Alors, de mon côté, je pense que la question est bâtarde parce que je pense pas qu'un coach puisse être nul à ce point-là. Et je pense que Genesio a un bilan avec lequel il peut se défendre, en tout cas sur certaines compétitions. Mais toi, quel était ton avis? Moi, ce qui m'a choqué, c'est surtout le fait que Lyon, en fait, dans ces matchs-là, où il faut tenir un score, où il faut aller en chercher un, j'ai l'impression que le plan de jeu dépend beaucoup plus de ce que l'adversaire va te forcer à faire, de ce qui a, que ce que, pardon, plus que de ce qui a été prévu par le coach lyonnais, souvent.
Ouais, bah là, de toute façon, face à la Roma, c'était un petit peu l'objectif, c'était de souffrir ensemble, hein, pour reprendre les propos qu'avait tenus Emery là, avant Barça-PSG. Parce que c'est vrai que Lyon a quasiment rien proposé. Le but de Diakabi, je crois que c'est leur premier tir du match. Donc il y a ce réalisme-là aussi qui colle à leur dynamique actuelle et qu'ils ont su conserver sur ce match retour et qui finalement a été indispensable parce que.
Jusqu'à ce que Cornet en fait gratte
Ouais,
croque à la
voilà.
fin,
Il y a
désolé.
que Cornet qui et Valbuena aussi qui en croque une belle, je crois, en milieu de deuxième mi-temps. C'est la première occasion en contre, je crois, de Lyon dans ce match. Mais c'est vrai que après, voilà, Lyon a défendu. Voilà, tous les joueurs ont participé, ont fait les efforts pour bien défendre. L'équipe a joué beaucoup plus bas qu'à l'aller. En effet, ça a été causé aussi par l'approche de la Roma qui était un peu plus pressante, mais qui n'a pas non plus retrouvé. Les joueurs qu'elle n'avait pas à l'aller, c'est-à-dire Nainggolan fait un match très moyen, Strootman, même si c'est lui qui marque, fait un très mauvais match dans le jeu après, Dzeko fait un très mauvais match, Salah s'est débattu, mais forcément sans ces joueurs-là autour, c'est pas non plus un joueur qui va faire la différence tout seul, en tout cas pas à ce niveau de compétition. Bruno Pérez a été très mauvais, ça fait quand même pas mal de joueurs de la Roma qui sont passés à côté sur les deux matchs. Et ça, bah, Lyon a su en profiter et pour revenir au coach. Alors, c'est compliqué. Le problème, je pense, ce qui lui est reproché, pardon, par les supporters lyonnais, à mon avis, en tout cas par ceux que je connais, c'est que l'équipe n'a plus aucune identité. Par rapport à l'équipe de garde, tu savais comment ça allait jouer, tu savais ce que ça allait faire. L'équipe de Fournier, il y avait quand même, c'était un peu dans la continuité de ce qui avait été fait avant. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une équipe qui, malgré les joueurs de talent qu'il y a devant, c'est un peu, ben, on leur file la balle et puis on voit comment ça se passe, quoi.
Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est aussi lié au manque de cohérence, en tout cas pointé du doigt par les supporters lyonnais, notamment dans les choix de Genesio, c'est-à-dire que d'un coup, Darder va être un joueur qui va enchaîner 5 matchs, et puis tu vas plus le voir pendant 3 semaines. Valbuena ne joue plus, d'un coup il va jouer titulaire. Fekir était un peu oublié parce que Gaëzal jouait, d'un coup Fekir joue et il est très bon. Et du coup, cette absence de continuité ne te permet pas forcément d'avoir une identité de jeu parce que c'est jamais les mêmes qui jouent. Par exemple, avec Mamana, Diakabi en défense centrale, Mamana pendant très longtemps a été complètement oublié. Et quand il revient, il est titulaire indiscutable. C'est là aussi qu'on arrive, on n'a pas, on arrive. Enfin, même que si tu suis pas Lyon pendant 3 semaines, c'est comme un peu comme la saison, une saison de Lost. Tu rates un épisode, tu comprends plus rien en fait.
Ouais, c'est pas faux, mais c'est vrai qu'en début de saison, tu sais, quand Lyon était très irrégulier, il y avait aussi énormément de changements sur le plan tactique. Autant Genesio a l'air
Oui,
d'avoir
des
trouvé
changements de
ces derniers
système aussi,
temps,
là aussi.
voilà. Les changements de système, ça a joué à 3, ça a joué en 4-3-3, ça a joué en losange, ça a joué en 4-4-2. Enfin, il a énormément changé, énormément cherché. Là, cette fin de saison, il semble s'être arrêté avec son 4-4-2 et Gonallon Touzard au milieu, avec la possibilité de coacher en faisant reculer Tolisso aux côtés d'un des deux pour
Ouais.
faire entrer une solution offensive supplémentaire. Bon, mais voilà, ça, au moins sur cette fin de saison, il a l'air d'avoir trouvé la bonne formule. Et ça, tu ne peux que forcément le mettre aussi à son crédit. Il a fini par trouver quelque chose qui apporte des résultats à l'équipe, qui a mis l'équipe sur une bonne dynamique. Après,
disons qu'on peut à la fois le saluer pour avoir trouvé la solution, mais lui dire t'as quand même mis 8 mois à le faire.
Voilà, sachant que peut-être qu'il y a 8 mois, il y avait pas mal de gens qui penchaient peut-être déjà vers cette solution. Mais après, en début de saison, il y avait les vrais problèmes de l'OL, c'était à régler, c'était défensivement. Parce qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas forcément à leur niveau. Nkoulou, ça a disparu totalement, par exemple. Tu démarres quand même la saison où tu imagines que les titulaires, a priori, vont être Mapou et Nkoulou. Et tu termines avec Mamana Diakabi. Une évolution sur le plan de l'effectif, des joueurs qui ont déçu, etc. Des blessures aussi, des joueurs qui doivent revenir de blessures. Après, il a un gros point positif aussi, et ça, c'est pas forcément sur le plan tactique, mais sur le travail, sur la saison. Au final, il termine la saison avec un nombre de solutions devant quand même, et des joueurs en forme, capables de répondre présent si tu fais appel à eux. Et il n'était pas dans cette situation-là en début de saison. Valbuena était HS, Fekir était HS, il revenait de blessure, mais bon, voilà. Ghezal, ça reste un joueur qui allait plafonner par rapport à sa demi-saison précédente.
Memphis n'était pas là.
Memphis n'était pas là, et Cornet est un joueur toujours toujours un joueur en apprentissage. Donc,
ouais. Je trouve que Cornet, il symbolise pas mal l'OL, parce que tu sens qu'il a des qualités. Mais t'es incroyablement frustré quand tu le vois jouer. Tu te dis, mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, c'est une bonne équipe, hein, une bonne équipe de football. Mais tu te dis, s'il y avait, je sais pas, un boulot qui était un peu mieux fait, une petite progression, ça lutterait avec les trois autres qui sont en tête de la Ligue 1 pour jouer le titre.
Après, il y a quelque chose aussi sur l'OL qui a baissé cette saison, c'est leur rapport au ballon et à la possession de balles. Et ça, il y a quand même des progrès qui sont visibles, et quand tu prends les demi-temps au match aller face à la Roma, ce qui fait la différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est que l'OL ne jette plus la balle, ne joue plus direct, donc ne laisse plus forcément la balle à la Roma, et l'OL réussit à garder la balle, à progresser avec du jeu court, progresser ligne par ligne pour arriver jusque dans les 30 derniers mètres, et notamment, vu que les passes sont plus courtes pour l'atteindre, toucher un joueur comme Lacazette dans de bonnes conditions. Et la grosse différence qui est venue entre les demi-temps, c'est la mobilité et la capacité des milieux à proposer des solutions. Gonalon Touzard, sur la première mi-temps, ça reste planté derrière.
Oui. J'ai vu plusieurs récupérations de balles, même où les mecs marchaient pendant qu'un de leurs partenaires essayait de se sortir de la situation.
Voilà, et ça finit derrière Dzeko. Enfin, ça passe quasiment toutes les phases de possession derrière Dzeko et Salah, dans le but d'être présent au contre-pressing, enfin, au pressing à la perte, et de récupérer la balle dans le dos de ces derniers, et surtout de couper les transitions de la Roma. Alors sur le plan de jeu, tu peux te dire, oui, défensivement, oui, il veut sécuriser à mort, il veut éviter les contres, quoi. C'est un choix tactique. Mais le fait que ces joueurs-là ne participent pas et ne s'insèrent pas non plus dans le jeu, ne participent pas offensivement, et ben l'OL l'a aussi payé sur cette première mi-temps, parce qu'ils n'ont pas tenu la balle. Or, c'est une équipe qui, pour toucher ses attaquants, et notamment un joueur comme Lacazette, dans de bonnes conditions, il faut que la balle remonte correctement et remonte surtout au sol. Et ça, en deuxième mi-temps, c'est venu justement d'un joueur comme Gonalon, qui, au lieu de rester derrière Dzeko et Salah, s'est inséré entre l'attaque de la Roma et le milieu de terrain. J'ai fait une vidéo dessus, si vous allez chercher sur chroniquetactique.fr, vous la trouverez. Et en s'insérant dans cette zone-là, c'était une solution très facile à toucher pour ses partenaires, notamment sur les côtés, Valbuena ou Morel, ou Raphaël, c'était Jallet en deuxième mi-temps, et Ghezal. Et en trouvant Gonalon, ils avaient ce relais-là qui permettait ensuite de toucher les attaquants. Et le but de Tolisso, c'est Gonalon qui touche Lacazette, qui touche Tolisso, ils se touchent entre eux, après, ils se font... ils se touchent entre les lignes romaines, et puis ça fait but.
Ça, c'est un plan de jeu, ça.
Ouais, et le but de Fekir aussi, c'est Lucas Touzard qui lui donne la balle, avec une passe qui entre les lignes de la Roma, et après Fekir, voilà, c'est pas une passe qui donne une action de but, mais c'est une passe qui met Fekir dans une position où ensuite lui peut faire la différence. Et voilà, la mobilité des deux milieux lyonnais, il y a même une séquence pour aller plus loin que ça et reparler de Mamana. On avait fait il y a quelques mois, on avait fait un petit peu l'éloge de Mamana et de ce joueur capable de relancer et qui pourrait permettre peut-être à l'OL de mieux jouer au ballon.
C'était après match contre l'OM, la victoire de Lyon.
Et, Et sur ce match-là contre la Roma, c'est une séquence que j'ai isolée et je vais la sortir à un moment donné en vidéo. On voit donc Lucas Touzard, donc qui est devant Mamana sur la même ligne verticale, et qui a Nainggolan sur lui. Et il se rend compte qu'il a Nainggolan sur lui. En première mi-temps, il n'aurait pas bougé. Il serait resté en place. En deuxième mi-temps, il a fait un petit déplacement qui a ouvert la ligne de passe pour Mamana, qui a pu toucher directement à la casette, qui avait décroché dans le rond central pour toucher la balle.
Ah,
et du coup, l'OL s'était sorti du pressing romain.
Rêve qu'on avait fait il y a quelques mois.
Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, je l'espère... en tout cas, c'est une séquence qui, moi, m'a sauté aux yeux. J'espère que ça a sauté aux yeux aussi aux membres du staff lyonnais, parce que c'est quelque chose qui doit se répéter. Si l'équipe veut mieux jouer au ballon, il faut que ses milieux bougent plus, que ce soit pour recevoir la balle dans le camp adverse, mais aussi pour peut-être ouvrir plus de solutions et ouvrir des possibilités de passe. Un joueur comme Mamana qui n'attend que ça pour pouvoir le faire.
Ils ont encore 2 mois pour faire ça, et puis après la casette sera plus là, donc autant qu'ils en profitent.
Il y a aussi ça par rapport à Genesio, c'est qu'aujourd'hui il se retrouve dans une situation, je vais pas dire confortable pour lui, mais où il a, tout à l'heure j'en parlais, des attaquants en forme à profusion. T'as Memphis, Fekir, Lacazette, Valbuena qui sont en pleine forme déjà.
Fekir avait l'air en bonne disposition. Hein, tu le vois jouer, ça a l'air
voilà,
bon. Hein.
Qui sont pas loin d'être au meilleur de leur forme. Donc déjà t'as une base autour de laquelle construire. Et puis vu que Tolisso joue entre 8 et 10... Tu peux aussi faire tourner, et t'as forcément une cartouche sur le banc à donner. Donc il a cet avantage-là aujourd'hui pour bien finir la saison, mais c'est vrai qu'avec le départ prochain de Lacazette et aussi celui annoncé de Tolisso, tu vas repartir de zéro. Et soit l'OL se trompe pas dans le recrutement, soit il va falloir en effet que Genesio trouve d'autres choses ou compte sur la progression d'un Maxwell Cornet ou peut-être l'éclosion de Aouar, sur lequel les supporters lyonnais ont l'air de beaucoup compter. Ça va être un peu l'été prochain. Généralement, tu vois, tu peux bâtir quand t'as un entraîneur qui bosse, tu peux bâtir et t'appuyer sur les fondations l'année suivante. Là, l'été prochain, avec le départ de Lacazette, tu vas pas pouvoir continuer sur la même lance, il va falloir trouver autre chose.
En attendant, il a une Ligue Europa à remporter et un quart de finale à jouer contre Beşiktaş. Alors, on va être très honnête, je n'ai pas vu un seul match de Beşiktaş cette saison.
Pareil.
J'ai vu des bouts de matchs contre Naples, notamment en Ligue des Champions, et contre le Benfica. Mais tu t'es renseigné, tu es allé chercher les petits chiffres, Florent, et tu as trouvé des petites choses intéressantes sur cette équipe turque dont on connaît pas mal de joueurs, d'ailleurs.
Ouais, alors, ce qui est intéressant, Christophe, par contre, qui n'est pas là, les a vus un petit peu jouer. Et il m'a un petit peu résumé les choses en disant que c'était une équipe qui lui faisait un peu penser à l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire pas forcément flamboyante dans sa manière de jouer, mais qui a énormément de talent devant pour
faire la différence. Et un très grand coach.
Et peut-être un très grand coach.
C'était pas ça la référence.
Non. Il s'arrêtait au talent devant, parce que c'est vrai que...
Avant que tu cites quelques chiffres, Florent, je vais citer des joueurs, les joueurs qu'on connaît en tout cas. Alors derrière, il y a Adriano, l'ancien du Barça, le latéral, là, je vois qu'il est là. Il y a Andreas Beck, qu'on connaît, qui a joué en Allemagne. Au milieu de terrain, il y a le magnifique Atiba Hutchinson, qui lui est un vrai déménageur, un espèce de Mustafa Diallo de Turquie. Et bien, il y a Ozyakoub, qui lui est le bon milieu de terrain dont on parle pas mal. Gökhan Müller, qui est là-bas. Et puis c'est surtout devant que c'est intéressant, avec Talisca, l'ancien du Benfica, Ryan Babel, Quaresma, Dembaba, qui est blessé malheureusement, Aboubakar qui a pris un rouge, mais c'est surtout dans ses talents offensifs qu'il y a de la qualité. C'est peut-être là aussi que la comparaison avec Lyon est plus logique.
Voilà, c'est ça. Et après, donc voilà, dans les chiffres, alors voilà, ne pas recouper, là on peut pas recouper avec des images vu qu'on ne les a pas vues, mais bon, en recoupant quelques chiffres, on peut avoir peut-être une idée de ce à quoi ressemble le Benfica. Et donc,
Le
Beşiktaş, oui. T'as dit Talisca, du coup.
Ouais, oui, c'est vrai.
J'ai fait le rapprochement. Bref, en Turquie, aujourd'hui, le Benfica est en tête.
Le Beşiktaş, tu vas dire.
Oh putain, c'est pas vrai. Le Beşiktaş est en tête du championnat de Turquie. C'est l'équipe qui tire le plus au but. C'est l'équipe qui cadre le plus de tirs. Alors, c'est une quinzaine de tirs. C'est un petit peu moins, je crois, que Lyon, s'il faut comparer par rapport à Lyon en Ligue 1 cette saison.
Champion 2016, hein, rappelons-le.
Ouais, c'est l'équipe qui concède le moins aussi de tirs par match, qui obtient le plus de tirs dans la surface adverse, qui tire aussi pas mal de loin. En même temps, quand t'as Quaresma, Talisca, etc., c'est pas très surprenant. Même Babel. C'est l'équipe en termes de possession, ils sont numéro 1, ils ont presque 60% de possession. En termes de passes réussies, 85%. Donc, c'est une équipe qui garde la balle, qui aime bien avoir le ballon. Il y a une vraie question par rapport au match face à Lyon qui justement, s'est fait un petit peu une habitude de, comment dire, de s'adapter beaucoup plus à l'adversaire qu'avant. Avant, Lyon, c'était une équipe, tu savais, n'importe quel match, qu'ils auraient la balle. Là, maintenant, c'est plus forcément dans l'ADN de cette formation. À voir sur ce match-là, je serais pas surpris si le Beşiktaş avait le ballon et que Lyon décide un petit peu d'attendre, en tout cas adopte une position un peu comme contre la Roma, quoi, assez enfin pas forcément attentiste, mais on attend de voir comment ça se passe et
Ouais, et puis
puis si
s'ils veulent le ballon, on va leur laisser, tant pis pour nous, quoi.
exactement. Après c'est aussi l'équipe de Turquie qui joue le moins de duels aériens. Donc ça veut peut-être dire que c'est une équipe qui aime bien avoir la balle au sol. En même temps, quand tu vois les joueurs alignés, il vaut mieux les servir au sol qu'avec des longs ballons dans les airs.
À part Hutchinson, en effet, il n'y a pas vraiment de profil de joueur de tête.
Exactement. Après, c'est une équipe, et là aussi, elle peut faire penser à Lyon, c'est une équipe qui a mis beaucoup de buts sur penalty.
Ah.
Déjà 8 cette saison et 17 buts sur coup de pied arrêté, donc dont 8 penalty. Donc, une phase à surveiller, c'est les meilleurs hein, en Turquie à ce niveau. 13 buts de la tête aussi, son numéro 1 en Turquie. C'est pas forcément une surprise quand t'as un joueur comme Aboubakar qui peut faire un peu de
Puis t'as
dégâts dans les
des
surfaces.
Talisca et des Quaresma pour les tirer aussi.
Oui, et de la qualité au niveau des tireurs. Là aussi, t'as des Quaresma, des Talisca, du coup, c'est pas très surprenant que ce soit une équipe qui centre pas mal. 69 centres au total. Donc ça fait pas mal, presque 3 centres par match qui deviennent des passes clés, voilà, pour donner une idée. Et après au niveau défensif, c'est une équipe qui n'a pas encaissé beaucoup de buts dans le championnat turc. En même temps, c'est pas non plus un championnat très relevé a priori.
Je regardais le classement là, je ne connais même pas le deuxième club du championnat turc.
Ouais, moi non plus.
Basaksehir, je découvre l'existence de ce club.
Exactement. Donc c'est une équipe qui a quand même encaissé 50% de ses buts sur coup de pied arrêté. 8 buts encaissés dans le jeu et 9 sur coup de pied arrêté, dont 3 pénaltys. Donc, voilà, la relation Valbuena-Diakabi, si elle pourra peut-être resservir sur ce quart de finale, pourquoi pas. Et enfin, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils ont fait face à des formations de niveau européen. Du coup, j'ai regardé leurs résultats sur la scène européenne et face au Galatasaray, à Fenerbahçe, etc. Et bon, c'est pas non plus un énorme bilan. Ce qui est intéressant par contre, en s'en tenant juste aux 10 matchs qu'ils ont joués en Coupe d'Europe, c'est-à-dire les 6 de poule et les 4 pour arriver jusqu'en quart de finale de Ligue Europa, ils n'ont fait aucune clean sheet. Donc, ils ont notamment pris un carton contre Kiev, puisqu'ils ont pris 6-0 à Kiev avec un match horrible. Donc, voilà, sur ce point, Lyon va sans doute marquer. Sur ces matchs-là, il s'agira aussi de marquer plus. Hein. Ça va peut-être pas s'envoler comme
C'est du
ça
niveau
pourrait.
Genesio, ça. Il faut marquer plus pour gagner.
Ouais, écoute, ça va peut-être pas s'envoler comme ça pourrait s'envoler pour Monaco Dortmund, mais ça risque d'être une double confrontation avec des buts. Et dernier point aussi sur le plan mental. Alors beaucoup de gens parlent évidemment du match retour avec la pression du public, etc. Faut aussi parler d'une chose, c'est que c'est une équipe qui est capable de passer totalement à côté de certaines mi-temps, mais aussi de mettre le feu sur une mi-temps, comme Lyon l'avait fait contre la Roma un petit peu. J'ai deux exemples que j'ai trouvés là en me repassant leur calendrier. Contre Benfica, ils sont à la maison, ils prennent 3-0 à la mi-temps, ça finit à 3-3. Et contre, je sais plus, je crois que c'est contre Fenerbahçe, je sais plus si c'est à domicile ou à l'extérieur par contre, ils sont menés 2-0 pareil à la mi-temps, ils finissent à 2-2. Donc, voilà, il ne faudra pas s'imaginer arriver en réalisant une mi-temps. Et donc, a priori, il faudra être très attentif à ce qui se passera en deuxième période. Et le dernier point quand même pour un petit peu boucler leurs affrontements face à des équipes d'un certain calibre. Face à Naples, ils vont quand même réussir à gagner 3-2 au San Paolo. Et ça, c'est leur performance de la saison. Et c'est la performance qui doit mettre la puce à l'oreille des Lyonnais et leur faire comprendre que cet adversaire-là sera. Il va falloir aller le chercher parce que gagner 3-2 à Naples, il n'y a pas grand monde qui l'a fait, je crois, cette saison.
C'est une opposition entre deux équipes plutôt imprévisible.
C'est
Le
ça.
bon point de ces quarts de finale pour Lyon, c'est d'avoir évité Manchester United. On va parler rapidement des trois autres matchs qui ont été tirés. Alors United ira se déplacer à Anderlecht. Genk, et non Ghent, se déplacera au Celta Vigo pour le match aller. Et puis un match plutôt intéressant et savoureux entre Schalke et l'Ajax. L'Ajax qui depuis, il me semble que ça faisait près de 10 ou 12 ans que l'Ajax n'avait pas atteint un quart de finale de Coupe d'Europe, ils y sont. Alors, c'est des équipes qu'on a très peu vues cette saison, en dehors de United. Est-ce que un de ces matchs te donne envie, Florent?
Pas vraiment. Par contre, bon, United, gros favori évidemment pour la victoire finale et encore plus pour cette double confrontation. En plus, le match aller à l'extérieur, Mourinho adore gérer les matchs oui. aller où il fait pas grand-chose et puis au retour.
Et en plus, pour eux, cette compétition, au-delà du trophée, revêt une importance tout particulière parce qu'ils se qualifieront sans doute pas en Ligue des Champions à travers le championnat.
C'est ça.
En tout cas, ça va être difficile. Et ils sont finalement à 5 matchs d'être qualifiés en Ligue des Champions grâce à l'Europa League.
C'est ça, c'est peut-être la voie la plus rapide pour eux pour, pour jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Ajax-Schalke, l'Ajax est une équipe qui sur les derniers matchs, en tout cas de Ligue Europa, puisqu'on a, on a droit aux stats avancées grâce à Michael Kelly, etc. et Elfstegen. L'Ajax est une équipe qui produit énormément offensivement. Ils auraient pu mettre un carton à leur dernier adversaire, je ne sais plus qui c'était là, cette semaine. Le match qu'ils gagnent, ils gagnent contre
Copenhague.
Ils auraient pu leur mettre un carton. Ils ont fini assez loin devant au niveau des expected goals. Donc c'est une attaque qui tourne. Et bon, après, en face, Schalke, c'est une équipe... assez une bonne équipe de Bundesliga, mais c'est pas la folie non plus d'après ce que j'ai pu comprendre cette saison. Ils ont des bons joueurs, mais c'est pas non plus la panacée. Donc c'est un match assez ouvert à mon avis. Et puis Genk Celta, j'espère que le Celta va passer parce que pour moi c'est un petit peu la wild card de ce plateau. C'est-à-dire c'est une équipe qui autant comme Monaco l'est un petit peu en Ligue des Champions. Ça va être tout ou rien quoi, le Celta, on le sait hein, c'est une équipe qui est capable de taper le Real ou le Barça et assez largement sur un match et aussi d'en prendre 6 face à ce même adversaire.
C'est une équipe de Berizzo, un disciple de Bielsa, donc en effet c'est des équipes radicales dans leur manière de jouer.
Exactement, et radicales quand ça réussit ou quand ça passe à côté. Donc le Celta c'est peut-être sur les 8 équipes qui restent l'équipe qui, pas forcément sur 2 parce que sur 2 ça me paraît compliqué, mais sur un match par exemple, s'il les croise en finale, peut poser des problèmes à
qui,
ouais, peut poser et notamment poser des problèmes à Manchester United. Mais donc voilà, c'est pour ça, pour rien que pour ça, j'aimerais que le Celta passe de manière à ce qu'ils atteignent les demi et qu'on ait, tu vois, en demi-finale cette équipe très imprévisible et qui est capable de mettre le feu sur une rencontre. Parce que c'est vrai que au-delà de ça, Manchester United, ben Mourinho, c'est une équipe qui calcule beaucoup et qui se contente du minimum, hein. Rostov ça a fait 1-0-1-0 je crois. Lyon c'est un peu pareil, même si ça attaque plus parce que ça défend moins bien, mais voilà, avoir une équipe comme le Celta qui est capable de foutre le feu et de mettre beaucoup d'intensité, ça me ferait assez plaisir de les voir dans le dernier carré et justement pour arriver jusqu'à les voir face à un adversaire beaucoup plus huppé que Genk ou ce qu'ils ont croisé. Ils ont quand même tapé le Shakhtar en 8e de finale en passant la dernière seconde et dans des conditions un peu suspectes a priori. Mais bon, ils sont passés et ça reste une équipe qui est assez plaisante à voir dans ses meilleurs jours. Donc j'aimerais bien qu'ils aillent,
oui, et puis
qu'ils passent au moins un tour.
C'est le dernier représentant espagnol d'une compétition où on était habitué à en voir 3 ou 4. C'est celle-là de la compétition.
C'est vrai.
Eh bien, écoute, on a fait un beau bilan, Florent, de ce tirage au sort de l'équipe de France. Je pense qu'on a fait un des podcasts les plus longs de l'histoire de Vue du Bas.
C'est possible.
Malgré l'absence de Christophe Kufli. On a compensé, surtout toi. On a compensé, on a eu une pause à un moment où vous verrez qu'avec le montage, on a réussi à faire des miracles. Voilà, donc on se retrouve pour un épisode la semaine prochaine où on parlera des matchs du week-end ou alors on se projettera sur les matchs de l'équipe de France, on verra. On vous souhaite une bonne semaine, on espère que ce podcast vous a plu. À bientôt.
Ciao.